Les séminaires du Collège de France.
D'abord, je voudrais remercier Jean-Marie pour l'invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être ici et présenter les résultats de une partie des résultats de l'équipe dans cette institution. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, je ne suis pas vraiment spécialiste en batterie, donc je m'excuse dès à présent pour ça. On est plutôt dans l'équipe sur les développements méthodologiques autour de microscopie optique pour aller essayer d'imager et de quantifier les processus chimiques et électrochimiques en particulier. Donc je vais essayer de vous présenter les stratégies qui se sont appliquées dans l'équipe et puis un peu plus largement, notamment avec quelques exemples dans les batteries. Et peut-être que je vais aussi mettre nos travaux dans la perspective de travaux sur les batteries. Je vais donc commencer par essayer de vous décrire pourquoi on veut imager les processus électrochimiques. Alors tout d'abord parce que l'électrochimie c'est une mesure d'ensemble, vous l'avez vu précédemment, quand on fait une courbe de charge-décharge, en général on adresse ce qui se passe sur l'électrode positive et l'électrode négative en même temps, on a difficilement une réponse de l'une ou l'autre des électrodes, on mesure tout à la fois, voire même on mesure ce qui se passe aux interfaces entre chacune des électrodes et l'électrolyte, on manque parfois d'informations et en plus cette mesure engendre souvent des phénomènes locaux importants, des densités de courant locales très fortes, ce qui se répercute sur les dégradations de ces matériaux et de ces dispositifs. Alors vous l'avez peut-être vu avant ou dans les cours précédents. En fait, en général, ce qu'on voudrait, c'est à partir des courbes de polarisation de charge ou de décharge des batteries, c'est pouvoir évaluer les vitesses de dégradation et les sources ou les causes de dégradation des batteries, qui sont multiples, comme vous pouvez le voir sur cette slide ici. Elles sont multiples et aussi très localisées, effectivement, comme la formation de dendrites. Et tout ça, eh bien, ça se répercute parfois ou non sur les courbes de charge-décharge. Si l'on veut essayer de comprendre ces phénomènes-là, une des solutions serait d'apporter un mode de visualisation in situ pendant que la batterie fonctionne. Alors ça s'appelle des visualisations opérando, en conditions opératoires, pour essayer de diagnostiquer ou comprendre et puis pourquoi pas prévenir et réparer directement dans la batterie les problèmes qui se posent. Alors la problématique est la même pour les batteries à électrolyte solide, avec en plus, comme vous l'avez vu, des problèmes de contact ou de mouillage ou d'adhésion entre les matériaux d'électrode et l'électrolyte. Ça s'applique aussi plus généralement à d'autres domaines de l'électrochimie qui sont l'électrocatalyse et l'électrosynthèse où on va aussi utiliser des configurations à deux électrodes. Alors vous allez me dire, si on veut comprendre un peu mieux ce qui se passe au niveau des électrodes, on peut toujours utiliser une mesure avec une configuration à trois électrodes pour aller étudier soit l'une, la négative ou la positive. Alors ça peut être satisfaisant. Malgré tout, si vous prenez par exemple la composition de l'électrode positive, eh bien c'est un mélange, c'est une électrode composite qui va comprendre un grand nombre de particules de tailles très différentes et de formes très différentes, dans lesquelles on va ajouter un conducteur, une poutre de carbone aussi avec une taille et une activité ionique conductrice électronique différente, et enfin un liant pour former bien une espèce de pâte qu'on va déposer sur un matériau inerte d'électrodes. Alors se posent également là les questions de l'activité intrinsèque de ces particules, mais aussi des phénomènes de dégradation, de dégradation de la poutre de carbone ou du binder par exemple, et enfin des problèmes de contact pour avoir une activité d'ensemble de l'électrode optimale. Alors là-dessus, si on veut comprendre un peu mieux ce qui peut s'y passer, eh bien encore, on peut faire ces mesures opérando. Et en même temps, eh bien, c'est développé depuis une dizaine d'années une nouvelle problématique en électrochimie qui s'appelle aller étudier l'activité des particules à l'échelle des objets individuels. Donc je vais essayer de mélanger tout ça pour vous montrer ce qui se fait en ce moment dans ces domaines. Alors tout d'abord, on a besoin de techniques opérando. Alors il y en a un grand nombre, évidemment, qui vont permettre d'aller sonder les propriétés des électrodes avec différentes échelles d'espace, hein, allant de l'atome jusqu'à quelques nanomètres. Puis ensuite, on peut aller voir jusqu'à ce qui se passe dans l'électrolyte en sondant les produits formés, comme des produits gazeux par exemple, tout en observant ce qui va se passer à l'interface entre, eh bien, typiquement l'électrolyte et le matériau bulk. Alors pour cela, on va adresser les processus qui ont lieu à l'interface et aux interfaces. Et vous voyez dans cette revue là qui parle plutôt des batteries en milieu électrolyte liquide, batterie lithium en électrolyte liquide, on a déjà apparition de techniques de type optique. Alors optique directe ou technique à base d'optique utilisant du Raman. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur les techniques operando utilisées dans les électrolytes, dans les batteries à électrolyte solide, il y a une revue très récente, exhaustive, sur l'utilisation techniques pour aller caractériser ces batteries. Alors, tout ça est intéressant. Je vous ai dit qu'on peut accéder comme ça à différentes échelles de temps et d'espace, finalement. Hein, on peut aller sonder de l'atome jusqu'à quelques dizaines de nanomètres, voire dans la solution ou dans l'électrolyte plusieurs microns ou millimètres. L'inconvénient de tout ça, c'est que si on voulait vraiment avoir une vision complète de ce qui se passe dans la batterie, il faudrait pouvoir mélanger différents types d'imagerie. Alors la tendance actuelle est d'aller vers des approches qui vont mêler des microscopies multiples et aux besoins corrélatives, avoir observé avec différentes techniques au même endroit le même objet. Donc ça, ce sont les tendances actuelles et nous, on se positionne depuis une dizaine d'années sur pourquoi pas utiliser des microscopies optiques pour aller observer tout ça. Alors pourquoi des microscopies optiques? D'abord parce qu'on peut voir à ces échelles-là, allant de nanomètres jusqu'à plusieurs millimètres, assez facilement. Alors le millimètre, il n'y a aucun problème, ça se fait par ce qui s'appelle la vidéomicroscopie. Typiquement, ce qu'on va voir, c'est des phénomènes physiques, des déformations, des changements de forme d'objets, de structures, des déplacements, des changements de morphologie. Alors c'est très intéressant aux échelles du micron au millimètre. Ce que nous on voudrait faire, parce que malgré tout on est un peu chimiste, même si on pourrait en douter, ce qu'on voudrait faire, c'est quantifier des réactions chimiques par des microscopies optiques. Et alors pour ça, c'est résumé un petit peu sur cette image schématique. L'idée, c'est d'avoir un objectif de microscope, et donc un microscope à un moment derrière l'objectif, et pour imager, par exemple, une électrode, pendant qu'elle va faire une transformation électrochimique. Alors, typiquement, c'est un exemple basique où on va transformer un oxydant en réducteur, ça pourrait être le matériau de l'électrode, hein, typiquement. Et ce que l'on voudrait, c'est pouvoir faire en sorte de détecter un signal lumineux qui va être caractéristique de cette transformation. Alors ça peut être différentes choses. Le plus simple, ce serait de penser à des changements d'absorption des espèces ou des constituants. Ça peut être aussi de l'émission de lumière, comme de la luminescence. Ça peut être aussi des processus de diffusion de lumière. Alors, diffusion élastique ou inélastique, comme l'émission d'un photon Raman, par exemple. Mais ça peut aussi être, et c'est ce sur quoi je vais m'attarder, des variations d'indice de réfraction. Alors, vous avez ici une petite idée de ce que l'on peut attendre de ça. On va travailler dans le visible, donc on attend des résolutions de l'ordre de la longueur d'onde, donc 500 nanomètres, avec des pixels assez petits, hein, typiquement 50 nanomètres, ce qui est extrêmement intéressant pour les systèmes d'imagerie, et puis surtout un très haut débit d'imagerie, un très haut débit d'information. Des images qu'on peut acquérir à la milliseconde, typiquement, pour de nombreux mécanismes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les gens n'ont pas utilisé ces microscopies plus tôt? D'abord parce que, en raison de leurs limitations, parce qu'elles sont limitées par la première chose, la diffraction, et je viens d'en parler. Également parce que, en général, on espère observer des espèces qui ont des forts contrastes optiques. Alors dans les batteries, ce serait typiquement les sulfures, hein, si on veut. Ou alors on va avoir besoin de cellules transparentes à l'optique. Alors, ce à quoi je pourrais... Alors, le dernier point, c'est qu'on a assez peu d'informations chimiques dans la région du visible, et donc ça pourrait être un problème sur l'établissement de conditions pour visualiser de la chimie. Alors, ce à quoi je pourrais répondre par des contre-arguments, je ne vais peut-être pas tous les citer. Le plus important, c'est que le prix Nobel de chimie, en 2014, a été attribué à des physiciens qui ont montré que l'on pouvait dépasser les limites de diffraction, ou en tout cas obtenir des images avec une résolution bien en dessous de celle de 500 nanomètres. Alors après, bon, bah, je peux faire d'autres choses sur, bah, oui, la spectroscopie UV visible et les indices de réfraction portent une information chimique pertinente dans de nombreux systèmes. Et enfin, ce que je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on peut détecter des choses allant de, ou des objets, allant de la dizaine de nanomètres à plusieurs millimètres, ce qui veut dire qu'on peut balayer au moins 6 ordres de grandeur d'espace dans une même expérience d'optique. À très haut débit d'imagerie, c'est-à-dire qu'on peut également obtenir un très haut nombre d'informations par unité de temps. Alors le dernier, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Il suffit d'avoir un microscope assez simple d'utilisation. Et puis ensuite, le rayonnement visible sont assez peu dégradants pour la matière. Donc on va utiliser ça pour aller sonder les processus dans les batteries. Alors, j'ai peu d'exemples sur les batteries solides, mais je vais essayer de vous en montrer quelques-uns. Et puis, ce que je vais faire, bah, c'est passer des systèmes les plus simples. Alors, les premières choses qui sont observables en vidéomicroscopie, c'est observer les électrodes et les électrodépôts sur les électrodes. Alors, vous savez, ou vous l'avez vu tout à l'heure, bah, ça s'accompagne de formation de SEI. Donc, je vais ensuite regarder ce qui se passe aux interfaces. Et puis, la formation de SEI engage la formation de produits dans la phase électrolytique, donc des gaz par exemple, je vais essayer de vous montrer comment on peut faire ça, et puis du transport des espèces est associé à cette formation de produits, donc je vais balayer cet aspect-là, et puis si on peut observer le transport dans l'électrolyte, on peut aussi regarder le transport dans la phase solide, et je terminerai en revenant sur les électrodes pour regarder les phénomènes de transport et de conversion. Alors, je vais essayer de vous montrer comment on fait de l'échelle du nanomètre au millimètre, puisque c'est ce que je vous ai vendu, en quelque sorte. L'intérêt d'aller du nanomètre au millimètre, c'est qu'on balaye des échelles d'espace et donc de temps très différentes. Ça veut dire qu'on peut regarder les phénomènes au premier instant, dès que les choses se forment, jusqu'à des temps très longs, c'est-à-dire pouvoir observer des phénomènes de dégradation à temps long. Et puis, le nanomètre me permettra aussi de faire la quantification chimique et le temps long sera... plutôt, de la vidéo. Quelle configuration utiliser? Quel microscope? Alors c'est plutôt quel mode d'illumination? Bon, il y a plein de choses, je ne vais pas tout détailler. L'important, c'est plutôt qu'on va faire des mesures en plein champ. C'est-à-dire comme ce qu'on ferait avec un téléphone, on va prendre des images au cours du temps et on peut faire ça de différentes façons. Il y a deux, trois modes d'observation les plus courants. La première, c'est transillumination, où on envoie de la lumière dans l'objectif qui va se répercuter sur la caméra. Donc ça permet d'observer des variations d'absorbance. La deuxième, c'est plutôt des modes de réflexion où on va faire en épi-illumination, on va envoyer un faisceau lumineux sur la région que l'on veut observer et récolter la lumière réfléchie ou réémise vers l'objectif. Et enfin, il y a des modes d'illumination obliques qui vont permettre d'illuminer des objets sans éblouir l'objectif. Et l'objectif de microscope pourra alors récupérer la lumière diffusée par les objets. Alors ça permet d'augmenter la sensibilité des microscopies optiques. On peut l'augmenter encore mieux en allant travailler dans des angles où on va toucher ce qui s'appelle la réflexion totale interne, dans laquelle on ne va illuminer qu'une toute petite proportion des objets, typiquement une centaine ou 200 nanomètres au-dessus de la région que l'on va vouloir observer. Alors ça permet d'augmenter la sensibilité, voire de voir jusqu'à des molécules à l'échelle individuelle. Alors, bon, bah, je ne vais pas balayer la totalité de tout ça, mais je vais plutôt essayer de vous montrer comment on peut imager et quantifier une réaction chimique. Alors, on peut le faire par fluorescence. Moi, je voudrais plutôt montrer qu'on n'a pas besoin de fluorescence. Alors, je ne vais pas détailler, je pourrais répondre à des questions si vous voulez, mais je voudrais faire ça sans marqueur, de façon à ce que ce soit le plus général possible. Pour faire ça, ben, je propose d'utiliser, enfin, je ne suis pas le seul, on est plusieurs à le faire, on propose d'utiliser l'indice de réfraction comme marqueur de composition chimique. Alors, qu'est-ce que l'indice de réfraction? Pour vous rappeler un tout petit peu, cet indice rend compte de la vitesse de la lumière qui traverse un milieu. Vous connaissez tous la réfraction, c'est quand on part d'un point A pour aller vers un point B, la lumière va passer par, selon un trajet particulier. Typiquement, si vous voulez aller, par exemple, si vous envoyez un faisceau lumineux sur un prisme ou à l'interface entre l'air et l'eau, eh bien, vous savez que le faisceau va être dévié. Et le faisceau va être dévié pour suivre non pas le chemin qui passe par le magasin de crème glacée, mais par le chemin qui va minimiser le temps. Et donc on va passer comme ça, c'est ça la réfraction, c'est le fait que la lumière va passer par ce chemin-là pour minimiser ce temps, et c'est lié à l'indice de réfraction de chacun des milieux. Cette réfraction, en fait, est une mesure de la polarisabilité du milieu. Alors c'est là où c'est intéressant, et c'est là où il y a le marqueur chimique, mais c'est également une mesure du volume molaire ou de la concentration des espèces qui seront dans votre milieu. Alors évidemment, il y a une loi, entre autres, que vous devez connaître, qui s'appelle la loi Clausius-Mossotti, ou London-London, qui permet de relier l'indice de réfraction à cette polarisabilité et à la concentration des espèces. Il y a d'autres lois très intéressantes, qui sont des lois additives, qui permettent de relier l'indice de réfraction à une solution solide ou une solution liquide, utilisant les concepts de réfractivité molaire. Donc on a un outil ici, un paramètre, l'indice de réfraction, qui va quantifier en quelque sorte une composition chimique d'un milieu. Juste pour vous rappeler, l'indice de réfraction est lié à la permittivité diélectrique du milieu, ou la permittivité optique, par la permittivité étant le carré de l'indice de réfraction. Vous pouvez retrouver cet indice de réfraction sous forme d'un nombre complexe, dans lequel la partie réelle serait ce terme de réfraction, donc comment les faisceaux vont se propager dans les différents milieux, et puis d'un terme d'amortissement qui correspond à l'extinction ou l'absorption du milieu, de la lumière dans le milieu. Donc vous voyez ici dans cet indice, on a un double information chimique par la polarisabilité et puis par l'absorption de la lumière. Bien, comment imager donc cet indice de réfraction et ces variations d'indice de réfraction ? Eh bien, le plus simple, c'est d'utiliser une microscopie en réflexion, à savoir qu'on va illuminer une surface que l'on veut observer en envoyant un faisceau lumineux comme ceci. Et puis, évidemment, il faut que cette surface soit partiellement transparente au moins pour qu'on puisse voir quelque chose, puisque c'est au-dessus que l'on va faire l'électrochimie. Donc une partie du faisceau va être transmise dans la solution, et puis une autre partie sera réfléchie, et c'est celle-là que l'on va enregistrer sur la caméra. Et c'est ça qui va nous donner notre image optique. Alors, l'information locale qu'on a sur chaque pixel, c'est l'intensité optique collectée, qui est finalement le signal réfléchi par la surface. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde une surface et on regarde comme dans un miroir ce qu'elle nous retransmet. On va apporter un élément chimique. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter comme élément chimique ? Le plus simple, c'est d'apporter un nano-élément chimique, donc une nanoparticule. On va la déposer sur la surface. Et quand on apporte cette nanoparticule de composition chimique, eh bien, on va l'illuminer. Et en l'illuminant, elle va réémettre de la lumière. Elle va diffuser la lumière de façon, pas isotrope, mais au moins dans toutes les directions de l'espace. Et notamment, une partie sera renvoyée vers l'objectif et donc vers la caméra. Cela va se traduire par l'apparition d'un spot, un motif, sur la surface, sur la caméra, avec une intensité optique. Alors on a donc deux phénomènes, la diffusion de la lumière et la réflexion du faisceau de départ, et les deux sont de nature différente au point qu'elles vont pouvoir rentrer en interférence, ce qui va nous permettre d'exalter ce qui va se passer sur la caméra. Alors, juste pour aller dans les équations et pour vous indiquer comment ça va se passer à peu près, ce signal optique au niveau où on a la particule, eh bien, va être une somme de l'intensité réfléchie, mais aussi de l'intensité diffusée par la particule, et enfin de ce terme-là d'interférence. Alors, ce terme d'interférence est important parce que c'est celui qui est prépondérant, et c'est celui que l'on va voir principalement sur notre caméra. Et il est typiquement proportionnel, avec certaines approximations, proportionnel au volume de la particule. Alors c'est intéressant parce que ça nous dit que l'image que je vais obtenir sur ma caméra, c'est une image de la masse optique de ce que j'ai déposé sur ma surface. Donc vous voyez, j'ai une particule et je vais détecter typiquement la masse de cette particule. Je fais un peu mieux que ça en réalité, puisque si je vais regarder comment on modélise les phénomènes de diffusion de lumière dans l'approximation de Rayleigh, pour commencer, eh bien c'est mieux que le volume, c'est le volume fois la polarisabilité en quelque sorte. Et donc on a non seulement une image de la masse optique, mais également une image chimique, puisqu'on a une masse de cet indice de réfraction, à peu près. Comment faire ça ? Eh bien, c'est très simple, on a besoin d'un microscope, très simple, un microscope inversé, sur lequel on a mis plein de choses au laboratoire pour aller faire de l'électrochimie localisée, mais c'est un microscope tout simple en réflexion, que l'on va utiliser en lumière, avec une lumière en lumière blanche, et qui va nous permettre d'observer plein de choses. On peut faire mieux si on veut, et augmenter la sensibilité, on peut utiliser des lasers, pour avoir une lumière cohérente et augmenter bien le rapport signal à bruit, par exemple. Et cette configuration, développée depuis un petit peu plus tôt que 2019, mais disons une dizaine d'années, s'appelle Interferometric Scattering Microscope et a un certain essor en ce moment dans la communauté scientifique, puisqu'il permet notamment d'aller détecter des objets individuels, voire des molécules individuelles, sans avoir besoin de marqueurs de fluorescence. Alors, comment on fait ça ? Vous avez, ou si je voulais vous essayer de vous convaincre, voici une image obtenue avec notre microscope sans laser, sur lequel on a déposé des nanoparticules de platine de 40 nanomètres. Vous voyez, on les voit clairement. Alors, elles ne sont pas toujours blanches, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Elles peuvent être sombres ou blanches. C'est le concept de l'interférence. On peut avoir des interférences destructives ou constructives. Donc vous voyez, on voit des objets individuels, il n'y a pas de problème. La limite de détection, c'est pour nous, pour notre microscope, 5 à 10 nanomètres. On peut descendre plus bas si on veut. Ça veut dire que je peux voir des objets aussi petits que 5 à 10 nanomètres sur une image optique. Alors à quelle cadence ? 100 Hz. Et puis je peux imager comme ça 50 par 50 microns, voire plus si j'ai besoin. Alors la résolution, parce que je vous disais que sensibilité n'est pas résolution, la résolution spatiale, c'est comment distinguer deux objets quand on va les rapprocher. Alors c'est typiquement illustré ici. Quand ils vont être plus proches, eh bien les tâches de chacun ou les motifs de chacun des objets vont se rapprocher au point qu'on va avoir du mal à les distinguer, comme ici typiquement. Alors c'est là qu'on va introduire les aspects de super-localisation ou de super-résolution. Ce que l'on fait, c'est qu'on va déconvoluer le signal optique, que vous voyez en noir ici, sous forme de deux gaussiennes, de façon à trouver la position de chacune des nanoparticules et dire qu'on est capable de résoudre deux objets, même s'ils sont placés à moins, ici c'est moins de 300 nanomètres de l'un de l'autre. Alors, ici, ça nous permet de résoudre les objets et surtout de les localiser avec une très grande précision. La précision que l'on peut faire avec un laser, c'est typiquement moins de 5 nanomètres. C'est-à-dire qu'on va pointer les objets très petits avec une précision de 5 nanomètres. Alors évidemment, s'ils sont très très resserrés, on va avoir du mal à le faire. Et ça veut dire quoi, très resserré ? Eh bien, ça veut dire plus proche que 220 nanomètres. Alors, c'est fonction de l'objectif du microscope. Et ici, ce qu'il va falloir faire, c'est avoir la résolution la plus forte liée à l'objectif de microscope, mais aussi le plus de pixels possible pour pouvoir déconvoluer le plus finement possible le signal optique. Bon, voilà. Pour résumer les performances de cet outil, donc de ce microscope inversé, comme je vous l'ai montré, on peut détecter des masses, et c'est ça qu'on va faire des détections de masse optique avec une limite de 5 à 10 nanomètres d'objets, une résolution spatiale de l'ordre de 200 nanomètres, une résolution temporelle, j'ai dit ici 10 millisecondes, ça peut être plus bas que ça encore. Le plus important, c'est qu'on va imager 50 microns par 50 microns jusqu'à plusieurs millimètres carrés. Et ça veut dire que dans ces images, on va pouvoir avoir au moins quelques milliers d'objets par image. Et le tout en temps réel, avec une fréquence de 10 millisecondes. Vous imaginez donc le nombre d'informations que l'on peut acquérir par unité de temps. Et donc, c'est ça qui régit le haut débit d'informations. Alors, comment j'utilise ça maintenant pour l'électrochimie ? Je vais commencer par l'électrodépôt, comme je vous l'ai dit, et au labo, eh bien, on fait plutôt des systèmes modèles pour commencer, pour essayer de s'approprier le tout. Donc ça date d'un peu de temps, d'il y a 6 ans, mais c'est quand même d'actualité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va déposer des particules d'argent en réduisant des solutions qui contiennent des sels d'argent. Alors on part de l'électrode de départ qui est ici, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va balayer le potentiel de l'électrode vers des potentiels plus négatifs, et on va voir apparaître des petits points brillants sur la surface. Et alors si on se focalise sur une région en particulier, on va pouvoir suivre l'évolution du signal optique en fonction du temps, comme vous pouvez le voir ici. Et ici, ce que l'on voit, c'est la croissance de cette masse optique sur la surface, à cet endroit-là. Si maintenant j'inverse le sens de polarisation et que je vais vers des potentiels oxydants, je vais faire la réaction inverse et puis je vais voir la disparition de cette masse optique et donc que j'associe à la disparition de la nanoparticule d'argent ou sa dissolution. Alors, comment est-ce qu'on rend compte de ce phénomène pour des applications électrochimiques ou pour quantifier tout cela ? On se rappelle que, je vous ai dit, c'était une masse optique, c'est proportionnel au volume ou à la masse de l'objet. Il suffit donc de dériver le signal, et puis ça me permet de reconstruire un voltammogramme, une courbe intensité potentielle, qui caractérise ici le dépôt de la nanoparticule et au retour, la réoxydation et donc la dissolution. Donc là, je peux, à cet endroit-là précis, avoir le voltammogramme ou la courbe intensité potentielle d'une nanoparticule. Je peux faire ça sur toute la surface et avoir celle de toutes les particules, ce qui me permet d'aller étudier à l'échelle d'objets individuels un grand nombre d'objets, étudier un grand nombre de caractéristiques qui vont influencer l'électrochimie, la taille, les voisins, le rôle des voisins sur la restructuration, par exemple, par mûrissement d'Ostwald et d'autres phénomènes. Alors c'est très, très intéressant du point de vue du modèle. À quoi ça peut servir pour les batteries ? On peut utiliser le même type de concept pour aller suivre les électrodépôts dans les batteries de zinc, de croissance de zinc. Alors ça a été fait par une équipe en Chine qui a utilisé justement une méthode analogue. Alors c'est une illumination en champ sombre pour ne pas éblouir l'objectif, mais pour juste voir la lumière diffusée par des premiers germes de zinc. Alors c'est les premiers instants, donc les premiers 10 à 100 nanomètres ou 300 nanomètres formés. Alors l'image finale est obtenue ici en champ clair et ici en champ sombre. On voit à peu près les mêmes structures avec l'avantage de voir au plus près du collecteur de courant des structures beaucoup plus fines qui vont être analysées, d'abord analysées en fonction du temps et avec l'idée de ce que je vous disais tout à l'heure, la superlocalisation. On va donc suivre ce qui va se passer au plus près du collecteur, on va pouvoir localiser les points de nucléation de ces dendrites et puis les localiser au cours de leur croissance jusqu'à reconstruire la trajectoire ou la formation du dendrite au cours du temps, comme vous pouvez le voir sur les premiers 200 nanomètres. Alors ce que l'on peut à quoi ça sert ? Ça permet notamment de mettre en évidence le rôle de la SEI, de la formation de la SEI sur cette croissance dendritique, et notamment quand on va ajouter des additifs dans la solution, on va pouvoir bloquer cette croissance dendritique et montrer justement quel est le rôle de ces additifs sur cette croissance dendritique. On peut faire le même type d'études dans des batteries lithium, en milieu électrolyte liquide, typiquement, et s'intéresser aussi aux premiers instants. Alors là, je vais vous montrer un film dans lequel on voit la croissance du lithium, d'un dendrite de lithium, et puis on voit ensuite sa redissolution, vous allez le voir ici. Alors ce qu'il faut voir, notamment, c'est pendant la redissolution, on détache un petit bout, et puis on redépose sur la surface, ici, quelque chose. Alors c'est le plus intéressant, c'est le rôle de la SEI sur cette croissance du lithium. Alors on voit effectivement, c'est des conditions un peu particulières, on travaille en couche mince, et puis à des très faibles densités de courant, mais c'est pour observer les premiers instants. Et dans ces premiers instants, ce qu'on montre, c'est que la croissance est dirigée dans une seule direction, la longitudinale et non pas la direction radiale. Pourquoi ça ? Parce qu'on forme une SEI en même temps qu'on fait l'électrodépôt. Pourquoi ça va croître dans la direction, je peux vous le repasser, dans la direction longitudinale ? Parce que c'est les endroits où on a les plus fortes densités de courant. Et donc c'est là où on va pouvoir redéposer plus que remettre de la SEI. Et alors pourquoi est-ce qu'on coupe ici ? C'est parce que justement au moment de la dissolution, on va perdre le contact par la formation de la SEI et donc on va créer des régions de lithium mort si on veut. Et là, ce que l'on a déposé par ici, c'est la gaine de SEI que l'on voit se former et se déposer sur la surface. Bon, alors on voit les premiers instants, c'est très bien. Comment ça se passe dans la vie réelle, c'est-à-dire aux fortes densités de courant? Là, c'est l'équipe de Martin Bazan qui a pu montrer justement comment se fait l'électrodépôt de lithium au milieu électrolyte liquide. Dans ce cas-là, on va montrer qu'on passe par une forme mousseuse, une mousse de lithium. Alors, elle se forme très très vite, elle s'étend de façon tridimensionnelle et notamment vers l'extérieur. L'inconvénient, c'est qu'elle capture du liquide dans lequel on va avoir très peu de lithium, de sel de lithium, ou d'ion lithium, ce qui veut dire qu'à un moment, on va forcer une croissance hétérogène, et notamment la formation de dendrites. Alors, l'intérêt de coupler cette visualisation optique qui se fait par vidéomicroscopie, vous voyez, on est à des échelles de plusieurs centaines de microns, à une mesure de la tension de cellules, c'est qu'on va pouvoir montrer que cette formation de dendrites, ou le début de la formation de dendrites, est associé à un changement brusque de la polarisation de la cellule. Alors ça permet, entre autres, de rationaliser le concept de l'apparition de croissance dendritique, mais aussi d'indiquer que cette variation de polarisation est un outil de diagnostic pour la formation des dendrites, et donc, pourquoi pas, de prévision pour aller notamment réparer ça. Le même type de travail a été fait, alors c'est beaucoup plus récent, vous voyez, ça date des années 2020, de 3-4 ans, a été fait dans la configuration électrolyte solide, donc avec des garnettes, je crois, dans ce cas-là. Je vais vous montrer le film dans lequel on a, on a une situation dans laquelle on a les deux électrodes, électrode positive et négative, que l'on va observer dans une configuration dans le plan, et on va voir ce qui va se passer à l'interface donc de cet électrolyte solide. Alors vous voyez, ils vont changer la densité de courant, et bien c'est à partir de ce moment-là que ça se passe, vers une dizaine de milliampères par centimètre carré. On va voir apparaître un film de lithium ici, qui va se propager de façon linéaire, puis de façon branchée jusqu'à effectuer un court-circuit avec l'électrode d'après. Alors, quel est l'intérêt de tout ça? D'abord, on va utiliser... le premier intérêt, c'est que certains des électrolytes solides, alors pas à base de soufre, hein, visiblement, sont transparents optiquement, ce qui permet d'aller observer ce qui va se passer. La plupart des travaux s'intéressent principalement à la croissance des dendrites. Alors, l'idée, c'est d'essayer de contrôler cette croissance, et dans ce travail-là, l'intérêt, c'était de pouvoir corréler cette image optique à une microscopie supplémentaire obtenue par MEB. Donc je vais vous montrer cet aspect-là qui est assez intéressant. Donc vous voyez, on peut avoir la croissance dendritique. Alors ce qu'ils observent, c'est qu'il y a plusieurs formes de croissance, et les deux plus fréquentes sont celles dirigées, puis celles branchées. La dirigée, elle se propage principalement à travers les fissures. Alors ces fissures sont soit préexistantes, soit ont été créées justement par ouverture mécanique via les densités de courant très fortes qui ont été utilisées. Alors ça s'est démontré par justement analyse post-mortem de l'électrolyte dans lequel on a décapé par faisceau d'ion. On peut aussi montrer qu'il y a de la croissance branchée. Et pour expliquer les croissances branchées, notamment, on peut montrer que c'est lié à des impuretés, des grains qui sont moins bien cristallisés, et que notamment, si on regarde, visiblement, la croissance du lithium fait le tour de ces grains. Et donc, c'est ces impuretés qui ont tendance à produire ces bifurcations dans la propagation de ces dendrites. Enfin, qu'est-ce qu'il a pu être étudié? Donc l'effet de la densité de courant, mais également la possibilité de redissoudre de façon réversible ce lithium, et donc notamment aussi de montrer que la propagation des fissures est peut-être suivie aussi, comme précédemment, par les variations de polarisation de la cellule. Donc, pour l'instant, la plupart des travaux qui s'intéressent à l'optique dans l'électrochimie des batteries tout solides, s'intéresse principalement aux dendrites. Pourquoi ça? D'abord parce que c'est les premières choses qui croissent, et comme ça croît très rapidement et que ça diffuse beaucoup la lumière, c'est en quelque sorte sont des phares, et on ne voit que ça. C'est un peu un inconvénient. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir voir d'autres choses, voir ce qui va se passer aux interfaces, notamment comment voir ce qui va se passer lorsqu'on va former des SEI ou voir, par exemple, le transport dans l'électrolyte. Alors, pour faire ça, il faudrait limiter la croissance des dendrites. Ça peut se faire par différentes approches qui ont été, alors je cite que celles qui ont été étudiées par optique et pendant les processus de charge. La plus pertinente étant celle qui consiste à augmenter la température ou faire déposer le lithium par fusion de façon à améliorer l'interface entre l'électrolyte et le lithium. La dernière étant assez intéressante, c'est contrôler la SEI. Alors pour ça, on peut pulvériser par exemple un fluorure d'antimoine sur le lithium afin de former une SEI qui sera aussi un conducteur ionique et qui va empêcher la formation de dendrites. Donc là, ça ouvre la voie à aller étudier cette formation de SEI. Donc pour résumer un petit peu cette partie électrodépôt, j'ai essayé de dire qu'elle était liée à la formation de SEI. Et c'est ce qu'on a voulu voir du point de vue nanométrique, à l'échelle nanométrique, toujours avec des situations modèles. Effectivement, quand on a de l'électrodépôt, en général, on a des réactions de parasites. Alors, typiquement, dans le zinc, on le verra plus tard, il y a comme parasite la réduction de l'eau. C'est le même cas dans le cas de la réduction du nickel. Si on prend une solution de sel de nickel et qu'on essaye de le réduire, on a deux possibilités. Soit on va réduire le nickel en nickel métal, soit on va enclencher la réaction de réduction de l'eau pour former de l'hydrogène, que j'ai oublié ici. Mais le plus important, c'est que ça va générer un milieu plus alcalin qui va permettre de précipiter les sels nickel sous forme d'hydroxyde de nickel. Alors ça peut se voir, on espère, optiquement. Vous voyez, on a deux types de motifs. Et pour voir deux types de motifs sur une image, le mieux, c'est d'utiliser une méthode spectroscopique, c'est-à-dire une visualisation en couleur. Alors l'image n'est pas en couleur ici, mais on va la décomposer en une image dans le vert et une image dans le bleu. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on voit deux types de populations, des populations d'objets très brillants et des objets très sombres. Comment les identifier plus avant? On ne peut pas faire ça par optique de façon directe. On utilise de la microscopie électronique à balayage, exactement au même endroit. Vous voyez, on a exactement les mêmes motifs. Et ça nous permet de montrer que ces motifs brillants sont des nanoparticules de nickel métalliques. Et puis, les objets plus sombres sont des agglomérats de feuillets d'hydroxyde de nickel. Alors ça permet de... Maintenant, on a un outil qui va nous permettre de distinguer les deux populations et de voir comment se passe cette compétition, comment se gère cette compétition entre le dépôt de nickel et la réaction de HER, donc de réduction de l'eau. Alors, on fait ça par voltamétrie, encore une fois. On va balayer le potentiel de l'électrode vers des potentiels négatifs et puis on voit apparaître un premier pic et puis une seconde branche. Alors, l'électrochimiste dirait bien sûr, ça c'est donc la réduction du nickel en nickel métallique, et puis ça, c'est la contribution de l'HER. Alors, si on regarde optiquement ce qui s'y passe, on voit bien apparaître la particule de nickel ici, vous voyez, la masse optique qui augmente ici, puis qui stagne, en corrélation avec ce pic du nickel. Ce qui est plus intéressant, c'est que pour certaines particules, du moins, on voit l'apparition de particules d'hydroxyde de nickel, une augmentation de masse aussi, alors elle est négative, mais c'est une augmentation de masse. On voit ces particules apparaître également sur le pic de nickel. Ça dit bien que le nickel, la formation de nickel métallique et l'HER peuvent apparaître en même temps. Alors c'est assez troublant, mais elle se passe à peu près partout, mais il y a conjonction entre les deux. Et donc, il y a une compétition rigoureuse entre les deux. Malheureusement, elle dépend du substrat. Le substrat n'est pas homogène. Et donc, on peut voir ces choses-là à différents endroits, à différents potentiels. Ça permet d'étudier le système. Ça permet d'en savoir un petit peu plus, parce que si on regarde la croissance du nickel, typiquement, on voit une augmentation de masse, et puis soudain, plus rien ne se passe, même si je continue à augmenter la réaction. Ça, c'est une manifestation de la formation de la SEI qui va passiver la croissance du nickel et faire une croissance limitée. Est-ce qu'on peut quantifier tout ça? Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Oui, tout à fait. Il suffit de rendre la mesure optique une mesure d'ensemble, puisqu'on a une première mesure d'ensemble qui est la mesure électrochimique. Je n'ai donc qu'à mesurer la totalité de ce qui se passe du point de vue optique. Comment je fais ça? Je vais concentrer la cellule sur une toute petite région micrométrique à l'aide d'une pipette, Vous voyez, comme ça. Et puis, je vais faire la réaction juste dans cette pipette. C'est ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est l'empreinte de la goutte dans laquelle je vais faire la réaction. Et puis, je vais suivre ça dynamiquement. C'est-à-dire que je vais observer les objets croître et apparaître. Alors, j'ai pas de film parce qu'ils sont un peu lourds. Il faudra me croire sur parole. Donc, vous voyez ici, j'ai l'image finale. Et puis, je vais la corréler avec d'autres microscopies, c'est les approches multimicroscopie dont je parlais, par microscopie électronique à balayage, AFM ou rayons X, pour avoir des informations sur la taille, la morphologie et la composition pour tous les objets que je vais avoir. Et puis ensuite, eh bien, je vais rendre le tout en mesure d'ensemble. Et c'est là où j'ai besoin d'avoir des outils d'analyse d'image. Donc c'est des outils qu'on va emprunter à l'intelligence artificielle pour aller détecter tous les objets que l'on a formés à chaque étape, donc sur chacune des images. Je vais faire ensuite de la reconnaissance d'image et reconnaître les différents objets obtenus par optique et obtenus par observés par MEB. Je vais les reconnaître et puis je vais, à partir de l'EDX, enfin je, non, on va, puisque c'est pas moi qui l'ai fait, on va ensuite catégoriser chacun de ces entités, de ces nanoparticules, en fonction typiquement de leur taille et de leur composition. Et donc ça nous permet d'avoir une cartographie de la totalité des objets formés et donc de comprendre ce qui s'est passé à chacun des endroits. À quoi ça peut servir ? Reconstruire et essayer d'expliquer ce qui s'est passé. On va reconstruire les voltammogrammes, comment ça ? À partir de modèles de croissance. On a fait croître des nanoparticules de nickel, et on peut considérer juste cette contribution, c'est le petit signal que vous voyez ici. Alors c'est loin sans faux celui obtenu expérimentalement. Donc il va falloir rajouter quelque chose de plus. La première chose qu'on peut rajouter, c'est la contribution de l'HER, donc la réduction de l'eau, sur les particules de nickel. Alors en rajoutant ça, on obtient le voltammogramme bleu, alors bien bruité, mais qui commence à ressembler à celui expérimental et qui nous permet notamment de donner une idée, du caractère catalytique du nickel pour la réduction de l'eau, qui est assez proche du platine. Alors évidemment, si on peut catalyser la réduction de l'eau sur le nickel, eh bien on va pouvoir précipiter ou transformer le nickel en hydroxyde de nickel et former cette SEI. Comment ça se voit? Eh bien, on peut le voir notamment sur les images optiques par la croissance d'hydroxyde de nickel et donc de cette SEI autour du nickel. Bon voilà, donc on peut adresser les premiers instants de la formation d'une SEI sur un métal pendant sa croissance, c'est très intéressant. Pourquoi pas, on est loin des batteries. Si on veut faire mieux et si on veut observer des matériaux de batterie, eh bien, il va falloir observer plutôt des choses sur des électrodes opaques. Alors comment on fait ça? Eh bien, on va regarder dans un miroir, on va regarder les électrodes, les collecteurs de courant typiquement, en utilisant une configuration similaire en réflexion, mais cette fois-ci en utilisant un objectif que l'on va immerger dans la solution. On va donc observer un miroir et on va se regarder dans le miroir et puis on va observer les variations de réflectivité de la surface. C'est comme si vous regardiez dans un miroir pendant que vous êtes dans votre salle de bain et que de la buée se dépose sur le miroir. Vous allez changer l'atténuation de ce que vous allez pouvoir voir. Et ce changement de la réflectivité, c'est une variation de la masse d'eau, typiquement, que vous allez déposer sur votre miroir ou de la masse de matière que vous allez déposer. Donc le changement de réflectivité va être un changement de masse optique. Et donc ça va me permettre de quantifier la quantité de masse déposée sur l'électrode. Alors ça peut être utilisé dans beaucoup de cas. Au laboratoire, on l'utilise pour la corrosion, notamment. La corrosion de l'aluminium, alors pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que c'est un des collecteurs de courant dans les batteries. Alors c'est peut-être un peu... je déborde un peu, peut-être. Juste pour vous parler de comment on fait ça ou de l'intérêt d'étudier ça, c'est que dans l'aluminium industriel, eh bien, il y a des particules intermétalliques à base de fer ou de silicium qui sont des parties qui vont être des parties qui vont démarrer la corrosion de l'aluminium. Qu'est-ce qu'on peut détecter là-dessus? La masse optique que l'on va imager, c'est la quantité d'hydroxyde d'aluminium qui est déposée sur l'aluminium. Comment on fait ça? Eh bien, optiquement, typiquement, on observe les objets. Vous voyez, on peut distinguer la matrice d'aluminium, la plus blanche, des particules. Et puis, en ayant toujours cette approche de corréler les images optiques à l'image MEB, on peut identifier clairement les particules de silicium ou les particules riches en fer directement sur les images optiques. Ça nous permet d'observer la corrosion, comme vous pouvez le voir ici, in situ. et de corréler avec ce qui va se passer. Alors, vous voyez, on peut voir différents comportements, des précipitations, des dissolutions, des précipitations, des dissolutions, enfin un grand nombre de choses. On va réutiliser l'intelligence artificielle pour essayer de catégoriser et de comprendre ce qui s'est passé avec des batteries, un grand nombre de particules observées, plusieurs milliers. On va les catégoriser en trois catégories, celles qui montrent une précipitation, celles qui montrent une précipitation avec dissolution, et puis d'autres dans le centre ou sur les bords. Ça nous permet de faire quoi ? De comprendre le mécanisme de corrosion, et notamment le plus intéressant, c'est d'aller comprendre pourquoi on a à la fois précipitation et dissolution sur des particules. Alors pour ça, on va utiliser des modèles multiphysiques qui vont considérer la dissolution de l'aluminium. La corrosion de l'aluminium va permettre la dissolution. C'est la région anodique du matériau. Eh bien, il y aura une région cathodique associée qui est, on peut montrer par cette étude-là, que ce sont plutôt les particules riches en silicium sur lesquelles on va faire la réaction de réduction. La réduction de quoi ? De l'eau ou du proton ou de l'oxygène, qui va rendre le milieu plus basique localement. Ce milieu plus basique permet de reprécipiter de l'hydroxyde d'aluminium. Et comment expliquer la redissolution ? Eh bien, si on dépasse une certaine quantité de hydroxyde, on va pouvoir redissoudre ce précipité sous forme d'anions aluminates. Comment est-ce qu'on comprend le tout ? Eh bien, en modélisant ce type de réaction pour différentes tailles de particules et mettre en évidence, et en mettant en évidence par exemple que, eh bien, on peut passer de situation de précipitation à précipitation et dissolution au centre, et qui est limité par la taille finalement des objets, comme on peut le voir expérimentalement, et le tout étant très bon accord. Alors, ça permet de comprendre, donc, vous voyez, cette masse optique, de comprendre des phénomènes locaux sur différentes matrices. On peut l'utiliser, notamment, on a fait ça avec l'équipe de Jean-Marie et avec Yvette Aguilar, pour comprendre les processus d'électrodépôt ou électrocristallisation de l'électrode de manganèse dans les batteries aqueuses zinc MnO2. Alors, voilà l'image de la surface d'électrode au départ. Et puis, on va la charger. Donc elle est dans une solution qui contient des sels de manganèse et de zinc. Et quand on la charge, vous voyez, sa réflectivité va chuter fortement. La surface s'assombrit. Et puis quand on décharge, eh bien, on va récupérer de la luminosité ou de la réflectivité. On a donc ici, qualitativement au moins, une idée de combien on va déposer, qu'on va déposer quelque chose sur la surface. Oula. Donc ça nous permet d'étudier ces processus d'électrocristallisation pendant une étape de charge et de décharge. C'est plutôt cette courbe qu'il va falloir observer, où on va corréler la charge déposée pendant l'étape de charge à la réflectivité, au changement de réflectivité. Ce que vous voyez, c'est que les deux grandeurs physiques sont extrêmement bien corrélées, ce qui indique que la réflectivité, la mesure de réflectivité, est une mesure de la masse d'oxyde de manganèse que l'on va déposer sur la surface. Alors ça permet d'aller notamment attribuer la densité du film déposé. Et puis si on regarde ce qui se passe en décharge, eh bien, cette fois-ci, il n'y a plus d'accord entre les deux mesures. Et ça indique quelque chose d'autre sur ce qui va se passer sur l'étape de décharge, que l'on attribue d'abord à la dissolution du MnO2. Et cette dissolution va faire apparaître des ions OH- qui vont permettre de reprécipiter le zinc présent en solution sous forme d'un hydroxysulfate de zinc. Et donc la dissolution du MnO2 et reprécipitation du ZH permettent d'expliquer ce comportement de la réflectivité pendant la décharge. Alors, on met en évidence ainsi que l'hydroxysulfate de zinc est une forme de SEI formée pendant la redissolution, pendant l'étape de décharge de l'électrode de MnO2. On voudrait voir le rôle de cette SEI sur les cycles suivants. Alors pour faire ça, on force un peu le trait et on va déposer des particules de ZHS, de cet hydroxysulfate, sur notre électrode. Vous voyez, c'est les objets blancs ou noirs que l'on observe. Et puis, on va charger l'électrode, donc faire une étape de charge. Et ce que vous voyez ici, c'est une carte relative de masse déposée. relatif. Pourquoi ? Pour mettre en évidence qu'autour des particules de ZHS, on a des dépôts plus épais. On va déposer plus de matière autour de cette SEI. Alors comment expliquer ça ? D'abord en regardant le comportement des particules. Alors vous avez ici en trait rouge le comportement d'une particule de ZHS. On y voit quoi ? On y voit que notamment à partir d'un certain moment ici, on voit que son intensité lumineuse va très fortement décroître, et c'est-à-dire qu'elle va disparaître. Donc on voit la dissolution de la particule. Alors pourquoi cette dissolution ? Eh bien, quand on peut l'expliquer par le fait que quand on va électrodéposer le MnO2, on va rendre le milieu localement plus acide, et que au contact de la particule de ZHS, eh bien, on va donc dissoudre pour équilibrer les pH. En quelque sorte, le ZHS joue le rôle d'un tampon local de pH et qui permet de déposer plus de matière à côté de la particule, et aussi d'éviter la suroxydation. Alors juste pour, donc ça c'est pour vous montrer, mais juste pour vous l'expliquer, on va travailler à potentiel constant, et si on a un milieu qui va tamponner le pH, eh bien on va pouvoir faciliter le dépôt d'oxyde de manganèse dans cette région comparé aux régions plus éloignées. Alors, on peut faire ça de l'autre côté, donc c'est ce qu'on fait dans une collaboration avec Christelle Laberti, et notamment aller voir l'électrodépôt de zinc, alors non pas sur du zinc, mais plutôt sur des électrodes qu'elle fabrique à base de nanofibres de carbone. Donc c'est des tamis, vous avez ici une image de ce tamis en solution avec la possibilité de visualiser des fibres uniques. Et puis on va suivre l'électrodépôt et le processus d'autodécharge qui serait lié à cette formation de SEI typiquement. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ? Eh bien on peut suivre de façon macroscopique ce qui s'y passe pendant la charge. Vous voyez, on va rendre le tout plus lumineux, on dépose du zinc. Et puis ce qu'on montre, c'est que l'intensité lumineuse est proportionnelle à la charge déposée. C'est intéressant parce que si on regarde l'autodécharge, vous voyez ici c'est l'étape d'autodécharge, on voit bien qu'on perd de la lumière, on peut voir également que l'on peut quantifier cette étape d'autodécharge. On fait même mieux que ça, donc on peut avoir une idée de sa vitesse de dégradation, de la dégradation du zinc, et on peut aussi attribuer cette autodécharge à la réduction de l'eau, puisqu'on va voir se former des bulles de gaz, principalement d'hydrogène. On peut faire un tout petit peu mieux, parce qu'on peut utiliser le concept de l'imagerie pour aller évaluer les taux de charge et les taux de décharge, ou les vitesses de charge et de décharge locales sur la surface. Ce qu'il faut voir là-dessus, c'est surtout qu'il y a une très forte hétérogénéité de la charge, en lien avec la distance entre les différentes régions et le collecteur, certainement, alors qu'il y a très peu de disparité. L'autodécharge est beaucoup plus homogène, eh bien parce que tout ce dont on a besoin pour l'autodécharge, c'est d'avoir de la solution autour, et c'est assez homogène ici, dans ce cas. Alors, j'ai terminé pour la SEI. Je vais maintenant vous montrer. Je vous ai montré qu'on pouvait observer des bulles de gaz. Donc, c'est la partie électrolyte. Donc, effectivement, on peut observer des bulles et dès les premiers instants. C'est un travail qu'on peut faire à partir de systèmes modèles, typiquement utiliser des nanoparticules de platine pour générer des bulles par électrochimie, des bulles d'hydrogène. Et vous voyez, donc c'est les particules de platine que je vous montrais tout à l'heure, sur lesquelles on va faire croître des nanobulles. Ce qu'il faut retenir de ça, plus qu'on peut quantifier le processus, c'est que la modélisation du signal optique nous permet de montrer que dans le motif que l'on voit là, on a une description tridimensionnelle de la bulle. Alors, je vais pas m'attarder dessus, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a en direct une idée de l'angle de contact que forme la bulle sur la surface. Et donc, on peut accéder au mécanisme de croissance de ces bulles. Donc, vous voyez, on peut visualiser, mais aussi comprendre les interactions entre les bulles et une surface d'électrode. On peut faire d'autres choses, on peut aussi observer les profils de concentration d'espèces dans des solutions. Alors ça a été fait à Sorbonne Université dans l'équipe de Terbach, nouveau jeune chercheur prometteur, qui a essayé d'étudier une configuration d'électrolyse d'un mélange d'un oxydant et d'un réducteur, où on va ici réduire et de l'autre côté oxyder. Alors c'est inversé par rapport à l'image là, je suis désolé. L'idée, c'est qu'on va peupler ici plus en oxydant et de l'autre côté plus en réducteur. On va faire un gradient de concentration des espèces, et cela se traduit directement par la mesure de réflectivité. C'est une mesure exactement comme celle que je vous ai présentée tout à l'heure, où on va avoir voir qu'une région plus sombre et une région plus claire. À quoi c'est dû ? Eh bien, au fait que l'oxydant et le réducteur ont des réfractivités molaires ou des indices de réfraction apparents différents. Et donc quand on va peupler plus en oxydant, on va changer la réflectivité globale de la région. Vous voyez, ça permet, avec des sensibilités submillimolaires, de pouvoir reconstruire les profils de concentration des espèces sur quelques micromètres, avec une résolution submicrométrique et une résolution temporelle de l'ordre de la milliseconde. Alors si on peut sonder les transports d'espèces dans un électrolyte, eh bien, ça doit être la même chose dans les solides. Ça doit être même encore plus simple, parce que si vous considérez la diffusion du lithium, par exemple, ou l'insertion du lithium dans une particule, on va travailler plutôt à l'échelle du molaire. Donc on doit pouvoir observer ces phénomènes-là. Alors ça a été effectivement démontré il y a quelques années, par des équipes de Cambridge et notamment celle de Clark Gray, où on va étudier la charge et la décharge de particules d'oxyde de cobalt qui seront assemblées presque exactement comme dans une cellule électrochimique classique, vous voyez, avec le binder et la poudre de carbone, et puis avec une électrode de lithium comme contre-électrode. Alors on va observer le tout avec ce microscope IceCat, ou alors le microscope que l'on a au laboratoire, donc en réflexion, tout simplement. Et voilà ce qu'on va observer pendant les charges, la charge de la batterie. Donc vous avez ici l'image, ce qu'on voit c'est que, quand on charge la particule, quand on enlève le lithium, on va exalter l'intensité optique, et puis quand on la décharge, on va la rendre plus sombre. Donc de la même façon que tout à l'heure, vous voyez le signal optique ici, c'est encore une indication de la masse optique dans la particule. Alors ça indique plutôt la quantité de lithium que l'on va faire rentrer ou faire sortir de la particule. À quoi ça sert ? À comprendre les mécanismes de lithiation-délithiation. Pour aller rapidement dessus, typiquement à des états à forte concentration de lithium, on va pouvoir passer pour la délithiation d'un état isolant à un état métal. Ça se fait par un mécanisme de type Korschelle où on va grignoter petit à petit des bords vers le centre. Par contre, l'étape retour est beaucoup plus complexe parce qu'on va créer une phase isolante. Dans ce cas-là, on va partir de différents points à partir de la surface et propager des ondes. Alors ça se voit ici, vous voyez, il y a une onde qui se propage. L'inconvénient, c'est que si on part de plusieurs endroits, on va créer des ondes qui vont se rencontrer et faire des dislocations et fragiliser le matériau. Ils ont pu étendre le tout à des particules de NMC. Typiquement, dans ce cas-là, on n'a pas de transition de phase, mais plutôt une solution solide. On ne s'attendait pas du tout à voir de mécanismes de type Korschelle. Pourtant, c'est ce qu'ils ont observé, ce qui leur permet d'expliquer le phénomène par, à haute concentration en lithium. On va avoir des coefficients de diffusion du lithium dépendants de la concentration. Plus on va mettre de lithium dans la particule, et plus le coefficient de diffusion va être petit. Et donc, on va retrouver cette propagation par un mécanisme de type Korschelle, ce qui permet notamment d'expliquer les pertes de capacité de ces particules en charge. Alors, je voudrais presque terminer par des travaux qui ont été faits en collaboration entre Jean-Marie et puis une équipe d'opticiens de l'ENS. L'origine de ce travail, c'est principalement que je vous montre qu'on peut visualiser ce qui va se passer dans les particules. En vrai, par réflectivité, on ne va pas observer la totalité de la particule. On va observer peut-être les premiers 500 nanomètres, ce qui s'appelle la profondeur de champ. Donc, on ne voit pas tout. Et donc, ce que voulaient faire les collègues, c'est plutôt essayer d'aller sonder la totalité, donc toute la profondeur de la particule. Pour ça, ils ont dévié leur IceCat pour en faire une imagerie confocale et aller sonder, donc vous voyez, dans toute la hauteur de la particule. Alors, ils peuvent notamment confirmer les profils de concentration, mais cette fois-ci en Z également, en XY et en Z. On peut aussi imager la totalité du volume et donc reconstruire le volume de la particule et montrer notamment que pendant l'étape de délithiation, il y a un dégonflement de la particule et un regonflement pendant l'étape de lithiation, entre autres. J'en arrive quasiment à la fin. Je vous ai dit, on ne peut pas observer la totalité de la particule. Si on voulait observer la totalité, il faudrait faire une mesure d'absorption. Comment faire une mesure d'absorption ? En réflectivité, on peut faire une mesure d'absorption en se regardant dans le miroir. Donc apporter un petit miroir juste au-dessus de la particule. C'est ce qu'on fait ici en apportant une petite électrode juste au-dessus. Vous avez ici une particule de bleu de Prusse et donc vous avez donc le faisceau va traverser la particule, puis être réfléchi sur le miroir et retraverser la particule. Et donc on a quelque part une double mesure de l'absorption lumineuse. Ça se voit sur l'image optique que vous voyez ici, on voit bien la couleur de la particule, on la voit finalement dans son entièreté. À quoi ça peut servir ? Eh bien, suivre les variations d'absorption et donc à détecter des particules électrochromes et observer les variations d'électrochromisme en fonction du potentiel. Juste pour vous expliquer comment on fait ici, ou le double intérêt de cette surface miroir, c'est que c'est une électrode qui va nous permettre d'activer le processus de charge-décharge. Alors, on a utilisé ça dans le contexte de batterie redox flow, où la particule peut être utilisée pour stocker la charge des redox flow. Alors, en redox flow, donc, ce qu'on a, c'est une navette redox, qui est ici le TMP-TMA, que l'on va oxyder à la particule, vous voyez, il est sous forme R, on va l'oxyder à la microélectrode, au miroir, pour former l'oxydant qui lui va oxyder la particule. Et en faisant cela, on va désintercaler le potassium. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Eh bien, typiquement, quand on va faire un voltammogramme sur la microélectrode où on va oxyder la navette redox, en même temps, on va voir une variation de l'absorbance de la particule et donc on peut sonder comme ça la quantité de charge qu'on va déposer. C'est ce que l'on va utiliser pour imager les processus de charge-décharge dans ces particules. Vous avez un petit bout de la particule ici, avec à partir des images obtenues, la capacité max qu'on peut mettre, et puis la capacité stockée dans la particule, ainsi que sa dynamique. Pour faire simple, vous voyez ici, on a très peu de capacité, et pourtant on stocke beaucoup et très très lentement. Ça rend compte de la porosité locale de la particule et de la diffusion des espèces. Je m'en arrête là. Je voudrais conclure très brièvement. En fait, j'espère vous avoir montré qu'on peut faire plein de choses a priori. On peut observer un grand nombre de phénomènes, donc d'énormes opportunités. Je voudrais surtout remercier les participants et les aventuriers de cette aventure, les opto-électrochimistes, j'aime bien les appeler comme ça, du labo, qui ont donc les permanents, mais aussi les doctorants et les post-docs. Également les collaborateurs à Warwick, Turku, Utrecht, donc Christelle, puis l'ENS et Jean-Marie pour le collège. Et puis ensuite, en chimie, on n'arrive jamais à faire une réaction efficace sans catalyseur. Et pour ça aussi, il fallait des catalyseurs. Et je voudrais remercier ou rendre hommage aux opticiens qui m'ont aidé dans cette aventure, au moins pour la catalyser. Et merci pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.